en remontant, il y avait un tas de feuilles là. Et puis je voyais du rose sous les feuilles. Alors je suis remonté, j'ai nettoyé, j'ai détourné un peu les feuilles. Après je vois une main, je vois des cheveux à travers les feuilles, du roux. Ben, je dis ça, c'est un corps. Hein.
Bonsoir, coupable ou non coupable? Une question récurrente, parfois même centrale dans bon nombre de dossiers criminels des affaires, qui semble a priori évidente, limpide, mais au sein desquels le doute finit par s'installer. C'est le cas ce soir avec cette enquête en tout point inédite qui passe par la Suisse et la Roumanie et dont le premier acte se situe en France, dans un bois proche de la petite commune du Franois, dans le Jura. En décembre 2016, était découvert ici le corps martyrisé et lardé de coup de couteau d'une jeune femme, le visage défiguré. Un crime barbare, l'identité de la victime restera longtemps inconnue. Deux ans plus tard, Alexandre Verdure, un travailleur frontalier, sera finalement condamné pour le meurtre de cette jeune femme, une prostituée roumaine portant le prénom de Mihaela. Des traces ADN accablantes, mais un condamné qui clame son innocence. C'est cette affaire, l'affaire de l'inconnu du Franois, que nous allons examiner ce soir dans le détail avec nos invités. Le scénario présenté par l'accusé est-il si rocambolesque que cela? Ses déclarations seraient-elles des mensonges cousus de fil blanc, comme le croit la justice? La justice s'est-elle trompée de coupable? Dans l'attente du procès en appel, ses avocats ont décidé de jouer leur va-tout en lançant une contre-enquête.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'affaire de l'inconnu du Franois. À la veille de la Noël 2016, personne ne peut mettre un nom sur cette jeune femme découverte dans une forêt du Jura, massacrée au point d'être méconnaissable. Un brouillard opaque règne ce 15 décembre 2016 sur les forêts du Franois, une minuscule commune du Jura, à une poignée de kilomètres de la Suisse. Il fait un temps glacial, deux bûcherons s'affairent avec leur tronçonneuse en contrebas de la route départementale 39. Ils terminent une coupe dans un bois où personne ne passe, au-dessus de la petite rivière le Hérisson et de ses cascades. Plus que deux arbres à scier, l'un des bûcherons, Georges Prost, se fraye un chemin. Il est aussitôt attiré par une tache de couleur rose sous un tas de feuilles mortes. Il pense tout d'abord à une bête morte, dégage les feuilles et touche le monticule avec son pied. Il distingue vaguement une forme et imagine alors une poupée gonflable qui aurait été jetée là depuis la route. La suite de l'inspection lui donne une toute autre explication. J'ai vu une main, j'ai vu des cheveux à travers les feuilles, des cheveux roux. Je me suis dit, ça, c'est un corps. Les gendarmes sont aussitôt prévenus de la découverte. La brigade de recherche de la compagnie de Lons-le-Saunier, rapidement épaulée par la section de recherche de Besançon, boucle le lieu considéré d'emblée comme une scène de crime. La victime, une jeune femme qui semble avoir une vingtaine d'années, a été retrouvée complètement dénudée, allongée sur le dos, les jambes de biais, le visage tourné vers la gauche. 26 traces de coups portés par une arme blanche sont dénombrées, au niveau du flanc et des cervicales gauches. L'autopsie, conduite par le médecin légiste Antoine Traqui, précise que l'inconnu porte 16 plaies au cou causées par un stylet ou un petit couteau de 1 cm de large. Malgré cet acharnement, ce ne sont pas ces plaies qui ont causé le décès, mais les coups assénés au visage, une violence inouïe. Le visage a été réduit en bouillie, les dents sont brisées, la mâchoire a été fracturée nette, le nez a complètement été décalé. Le légiste mentionne encore des blessures au flanc gauche. Selon lui, l'agonie aurait duré plusieurs dizaines de minutes, la jeune femme se serait vidée de son sang. L'autopsie permet d'indiquer que la victime a été tuée de 4 à 8 jours avant la découverte fortuite de son corps. Le procureur de Lons-le-Saunier, à l'époque Jean-Luc Lénon, précise « L'autopsie ne nous a pas tout dit. Elle ne permet malheureusement pas d'établir les circonstances exactes de la mort. Nous attendons toujours un signalement qui permettrait d'identifier la morte de la forêt du Franois. » Bonsoir Marc Eternaud.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct ce soir dans le studio de l'heure du crime. Alors vous êtes criminaliste et vous êtes également détective privé. Et on verra que vous avez été engagé dans cette affaire pour finalement un petit peu refaire une contre-enquête avec le procès en appel qui va venir. On va en parler évidemment, mais tout de suite je voudrais vous poser une question simple, une question de la scène de crime. On est là dans un lieu très isolé, un lieu que fatalement il faut sans doute connaître pour aller déposer un corps à cet endroit-là.
Alors effectivement, il faut connaître les lieux. Le crime ayant eu lieu, non pas au sein de la forêt, mais En Suisse, à Lausanne.
On en parlera.
Mais effectivement, pour y déposer le corps dans cette forêt, il faut véritablement connaître les lieux. Il n'y a pas d'autre choix que d'être un local, j'ai envie de dire. Néanmoins, connaître les lieux, éventuellement y déposer un corps, n'en fait pas forcément un coupable.
Bien sûr.
On accuse une personne, mais en tout cas, pour l'instant, il y a... Au départ, aucun élément qui montrait que la personne qui avait déposé le corps à cet endroit, même s'il le connaissait parfaitement, était l'auteur du crime.
Était l'auteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le lien qui est établi, qui le sera par la justice, mais on verra comment ce lien-là sera établi. Marc Eterno, alors vous n'êtes pas policier, je le précise, hein, mais quelles sont, pour résumer un petit peu, les constatations que peuvent faire les policiers sur une telle, les policiers ou là, en l'occurrence, les gendarmes sur cette scène de crime? Il y a un relevé d'empreintes, l'ADN.
En amont de ce dossier, il y a un travail conséquent qui a été effectué par les services d'enquête, notamment pour permettre d'identifier la victime. Il y a une reconstitution informatique de son visage qui a été effectuée, qui a par la suite permis aux enquêteurs de mettre un nom sur ce visage. On n'est plus maintenant sur l'inconnu de la forêt du Franois. Cette personne avait un nom, un prénom, Mireilla. On sait d'où elle venait, on sait qu'elle était...
Mais là, en l'occurrence, les premières constatations, c'est... on va au plus pressé, hein, c'est-à-dire finalement, on balise cette scène de crime,
on s'aperçoit qu'il s'agit d'un crime.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est déjà une première chose. Un crime odieux, atroce, un corps mutilé. Très rapidement, on s'aperçoit que cette personne... n'est pas de la région, parce que les enquêteurs n'arrivent pas à déterminer un lien quelconque entre cette personne et puis les fréquentations dans les virages aux alentours d'une personne qui correspondait à cette description physique. Rapidement, on se tourne vers la Suisse. C'est là où les enquêteurs ont été, pour le coup, très brillants.
Oui, parce que la Suisse, géographiquement, elle est à côté.
Hein.
C'est une poignée de kilomètres. Donc, effectivement, le périmètre, là, il est à la fois sauvage et il est vaste. Maître Sylvain Cormier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci vous aussi d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Et vous êtes également avec nous ce soir dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes, je le précise, l'avocat d'Alexandre Verdure. On va voir apparaître effectivement cet homme dans le dossier assez rapidement. Et vous êtes aussi l'avocat d'Innocence Project France. C'est une association qui s'occupe principalement des erreurs judiciaires. Une scène de crime particulièrement violente, hein, Marc Eterno l'a un petit peu précisé. C'est rare de voir quand même une personne tuée avec une telle violence, une telle hargne, j'ai envie de dire.
Il y a à la fois de la hargne et, à mon avis, mais c'est une interprétation subjective, la volonté de faire souffrir cette pauvre jeune femme. Il y a 26 plaies par arme blanche. C'est une arme très fine. La lame fait 1 cm, vous l'avez dit. C'est une arme symétrique. Donc, avec le côté double tranchant, pour être...
C'est pour ça qu'on dit que ça pourrait être un stylet, c'est ça,
hein? C'est pour ça que le médecin légiste a pensé à un stylet. Ça peut aussi être un couteau papillon ou à cran d'arrêt. Il y a des couteaux spécifiques, couteaux de voyous, hein, de bandits. Et à côté de ces plaies qui sont là pour faire souffrir, il y a un fracas épouvantable. On a fracassé le visage de cette femme. On ne sait pas avec quoi. Peut-être avec des pierres, peut-être avec quelque chose de lourd. Mais les médecins légistes parlent vraiment d'un fracas parce que la victime est méconnaissable.
Elle est méconnaissable. Hein, c'est-à-dire que le visage a quasiment explosé. On peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'elle a été battue à mort. Marc Eterno, vous partagez ce sentiment, parce que c'est rare quand même d'avoir ce genre de scène aussi violente.
Et ce qui ne permettait pas, dans un premier temps, de reconnaître la personne. Personne n'était en mesure de dire de qui pouvait s'agir. Alors, ce qui est certain, quasiment certain en tout cas, c'est que ce sont les chocs sur la tête qui ont conduit au décès.
C'est ça.
Et c'est là où je rejoins Maître Cormier. Les coups de couteau n'ont pas été, a priori, mortels.
C'est ça.
Et ça pourrait laisser penser qu'il y a eu des sévices, qu'il y a eu peut-être une volonté de faire souffrir longtemps, peut-être pour exemple cette personne. Ce qui me permettra peut-être, après on en parlera, de développer la thèse supposée de l'exemple qu'on voulait donner en faisant ce genre de blessure, en infligeant ce genre de blessure.
Tout à fait. Cette jeune femme demeure une victime anonyme. Impossible dans l'immédiat de lui donner un nom. On va donc reconstituer son visage avec l'espoir que celui-ci déclenche un témoignage capital. Grâce aux photos et aux prélèvements retrouvés sur la scène de crime, les gendarmes de l'identification criminelle s'affairent à reconstituer le visage détruit de la victime. Une jeune femme entre 20 et 30 ans, mesurant 1m67 et pesant 50 kg, des cheveux ondulés, abondants, teints en roux. Un mois après la découverte du corps, la gendarmerie est ainsi en mesure de diffuser un nouvel appel à témoins comportant cette fois la reconstitution en 3D du visage de la malheureuse. Une femme qui porte comme seul signe distinctif un bracelet tressé au poignet gauche et a les oreilles percées. Malgré cette diffusion, aucun témoignage ne permet de mettre un nom sur ce visage. Pour les enquêteurs, il est très probable que l'auteur du crime est quelqu'un qui connaît parfaitement la région. La victime n'a pas été abandonnée là par hasard. Il faut connaître les lieux, surtout qu'un corps de 50 kg à bras d'homme, ce n'est pas facile à transporter, explique alors le procureur. Les recherches locales ne donnent toutefois pas de résultats. Aucune absence de jeune femme signalée dans le secteur. Les gendarmes passent en revue 800 dossiers de disparitions inquiétantes en France. Les investigations sont élargies dans toute l'Europe, mais sans succès. Février 2017, deux mois après la découverte du corps, la justice ouvre une information judiciaire contre X pour meurtre. Les enquêteurs ignorent alors que de l'autre côté de la frontière, en Suisse, fin décembre, une promeneuse est tombée sur des taches de sang sur un sentier de Sulins, localité du canton de Vaud, à quelques kilomètres de Lausanne. La police a été prévenue, a effectivement constaté des traces de sang, a été également découverte une carte d'identité perdue au nom d'une certaine Mihaela Miloiu, 18 ans, de nationalité roumaine. Ce signalement ne va en fait émerger que quelques mois plus tard, à la faveur d'échanges entre enquêteurs suisses et français. Au mois de juin 2017, les gendarmes convoquent ainsi l'habitante de Sulins qui avait trouvé les traces de sang puis était tombée sur la carte d'identité. Les enquêteurs se rendent sur les lieux pour procéder à des vérifications. Par chance, six mois après, les intempéries n'ont pas effacé tous les indices. Il reste une infime trace de sang prélevée après un carottage du sol. Cette trace est comparée à l'ADN de l'inconnu du Franois. Et cet ADN match, correspondance parfaite. Mihaela Miloiu, arrivée depuis quelques mois en Suisse, connue pour s'adonner à la prostitution dans la région de Lausanne, est bien la jeune femme rousse retrouvée dans le Jura français. Elle est formellement identifiée grâce à l'ADN de sa mère, qui réside, elle, en Roumanie. Maître Sylvain Cormier, vous êtes l'avocat d'Alexandre Verdure qui, on le verra au fil de cette émission, va être accusé du meurtre de cette femme dont on connaît désormais le nom, qui n'avait plus de visage, mais dont on connaît le nom, Mihaela Miloiu. Qui est cette jeune femme, Maître Cormier ?
Alors, c'était une jeune prostituée qui avait été recrutée par deux proxénètes roumains, qui la faisait travailler en Suisse. Et je crois que pour elle, ce moment-là, c'est le début d'une longue descente aux enfers.
Parce que c'est une fille qui est dans un réseau, c'est ça, hein, donc qui est un réseau assez puissant d'ailleurs dans la région de Lausanne. Hein,
c'est un réseau puissant et structuré, très intelligemment fait. Pour un exemple, on ne laisse pas les filles avoir leur propre téléphone, on leur en donne, ce qui fait qu'on peut ensuite épier leur conversation, surveiller qui elles appellent, qui etc. On leur confisque les passeports. Elles n'ont pas non plus d'argent. Il y a une écoute qui révèle que on ne leur laisse même pas de quoi s'acheter une bouteille d'eau pour être sûr qu'elles restent bien sur le travail qu'on leur a assigné.
Ce sont des filles sous surveillance. On peut voir les choses comme ça.
Une surveillance très serrée.
Et on ne les perd pas de vue en général.
Ouais, mais jamais.
Parce qu'elles rapportent beaucoup d'argent.
Ouais.
Donc on n'a pas intérêt à trop les laisser traîner et ou à même les laisser partir ou même les laisser fuguer, ce qui peut arriver en matière de prostitution.
Voilà, absolument. C'est exactement ça.
Marc Eterno, détective privé engagé pour ce procès, un appel qui viendra, on va en parler, vous êtes criminaliste. Là, la donne change presque du tout au tout, j'ai envie de dire, parce que il y a deux scènes de crime. Hein, il y a la première scène de crime, c'est celle de la découverte du corps, mais il y a peut-être celle-là qui est encore plus importante, c'est la scène où manifestement cette jeune femme a été tuée, et c'est en Suisse. Alors là...
C'est en Suisse, alors...
Qu'est-ce que ça veut dire ?
De ce fait, on resserre un petit peu les possibilités géographiques de retrouver le coupable, puisque c'est forcément quelqu'un soit qui y résidait, soit qui y travaillait, on le verra plus tard, puisque Alexandre Verdure était ce qu'on appelle un frontalier, c'est-à-dire qu'il travaillait en Suisse et qu'il résidait en France. De ce fait, on peut déjà se dire, ce soir-là, le criminel était sur place. Ouais. Donc les enquêteurs ont pu déterminer que M. Verdure était ce jour-là sur place par la suite. Ça resserre le champ des possibilités. Il était sur place, était-il l'auteur du crime? Ça, c'est une autre chose.
Bien sûr, mais ça, effectivement, l'enquête va progresser sur lui. On va le découvrir, ce personnage, au fil des semaines et des mois qui vont venir. Ça ne va pas être si simple. Je voudrais qu'on en reste un petit peu là, à cette découverte.
Justement.
Parce que là, qu'est-ce qui intéresse les enquêteurs? Finalement, on est dans le milieu de la prostitution. Alors j'ai envie de vous dire, la piste qui est servie sur un plateau, c'est celle du réseau de prostitution.
Voilà. Et on connaît ce réseau de prostitution, puisqu'ils sont sur écoute, il y a déjà des surveillances qui sont effectuées à cette date-là par les services suisses. Et surtout, on connaît leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils enrôlent les filles par une technique très précise qui est de la séduction. Les jeunes femmes tombent amoureuses de personnes localement connues en Roumanie, riches, reconnues et craintes. Ils s'organisent pour ensuite les emmener en Europe, là en l'occurrence en Suisse, pour qu'elles s'adonnent à la prostitution, avec un système très répressif, avec une pression systématique sur les filles.
On les lâche pas.
On les lâche pas, on les violente de manière absolument odieuse si elles ne respectent pas les règles, si elles ne rapportent pas suffisamment d'argent. Et on donne pour cela des exemples, c'est-à-dire que on fait des sévices sur ces personnes pour montrer aux autres qu'elles ne doivent pas pas respecter les règles telles qu'elles sont définies par ces souteneurs. C'est intéressant parce qu'on est déjà dans un monde ultra violent.
Ouais. C'est des gens qui ont l'habitude de la confrontation, exactement, de la violence. Maître Cormier, vous êtes d'accord avec cette description?
C'est-à-dire absolument.
Encore une fois, je pose la question, mais qui est vraiment toute simple. Je suis enquêteur, je suis policier. Une prostituée a été tuée de la manière la plus sauvage qui soit. Le premier réflexe, c'est de s'intéresser au milieu dans lequel elle évolue.
Sauf qu'il y a un problème, Jean-Alphonse Richard, c'est que les Suisses n'ont pas du tout donné suite au premier signalement. Et vous l'avez dit dans votre résumé, il a fallu 6 mois pour qu'on y revienne. Et j'enrage quand je vois ça, parce que lorsqu'on se dit qu'il y avait un témoin qui, quasiment le lendemain des faits, rapporte la carte d'identité de la pauvre Mirella, dit « j'ai vu du sang, il y a dû avoir une agression, c'était grave, j'ai pris des photos, c'est vraiment une grosse flaque de sang ». Et vous le croirez peut-être pas, mais la gendarmerie suisse, je crois que c'était la gendarmerie suisse de mémoire, saisie de ce signalement inquiétant. Il y a une carte d'identité, c'est sans doute pas un animal qui a saigné.
À côté de la flaque de sang.
C'est ça. Eh bien, ne fait rien du tout.
Ouais.
Alors, on nous a expliqué au procès que les enquêteurs, à ce moment-là, allaient partir à la retraite, etc. Enfin, bref. Mais on a perdu un temps considérable. On a peut-être perdu la possibilité de consulter des images vidéo. Parce que si on avait travaillé dès le lendemain, on aurait pu récupérer des images de l'agression, je pense.
Et est-ce qu'on sait en un mot, pourquoi justement la gendarmerie du canton de Vaud n'a pas donné suite?
Alors,
c'est assez flou, non?
C'est complètement flou. Le directeur d'enquête suisse que j'ai interrogé a essayé de défendre ses collègues en disant voilà, il allait partir à la retraite. Enfin bon, il était un peu gêné aux entournures pour dire c'est une vraie carence énorme. Parce qu'on a perdu, un temps considérable et peut-être même la possibilité d'avoir des images de cette agression sordide.
La victime a un nom, mais impossible de savoir pourquoi elle a été tuée. Toutes les pistes vont alors être explorées. Celle d'un souteneur qui lui aurait infligé une correction définitive. Celle d'un détraqué ou encore celle d'un client de passage, mécontent et violent. Les policiers suisses et les gendarmes français travaillent main dans la main sur la mort de Mihaela Miloiu. Les premiers s'attachent à discrètement enquêter sur le réseau de prostitution auquel elle appartenait. La police roumaine est également sollicitée. Plusieurs hommes, des proxénètes agissant entre la Roumanie et la Suisse, sont placés sur écoute. Pas moins de 4000 appels vont ainsi être captés, traduits et retranscrits. Certains évoquent la disparition de la jeune femme, mais aucune de ces conversations ne semble accréditer clairement l'hypothèse d'une punition, d'un crime commis au sein même du réseau. De leur côté, les enquêteurs français compulsent leurs fichiers, notamment ceux des délinquants sexuels, repassent en revue les témoignages et étudie les bornages téléphoniques. Un ADN masculin a été retrouvé sur le corps de la victime, résultat d'un rapport sexuel. Ce même ADN est également présent sous la plante de pied de la jeune femme. ADN qui reste obstinément muet. Les gendarmes ont alors l'idée de recenser toutes les hospitalisations de la région dans la semaine où a été perpétré le crime. Ils estiment que le meurtrier a pu se blesser en agressant la prostituée. Un cas retient l'attention. Le 30 novembre 2016, un homme s'est présenté aux urgences de l'hôpital de Pontarlier à 6h51 du matin pour une coupure profonde à l'index droit. Il a expliqué s'être blessé en découpant de la viande de chevreuil. Le mardi 7 novembre 2017, le dénommé Alexandre Verdure, 30 ans, agent de sécurité au sein de la société de sécurité Protectas à Lausanne, est placé en garde à vue. Ce père d'un petit garçon de 2 ans et qui vit avec sa compagne à Moutes, dans le Doubs, à 30 minutes du Frénois, est un ancien gendarme réserviste dont le casier judiciaire est vierge. Verdure n'est pas connu pour violence ni en France ni en Suisse, où il travaille en qualité de frontalier. En début de garde à vue, il nie toute implication dans le crime. Les enquêteurs lui soumettent alors le résultat d'un test salivaire. Son ADN match avec celui retrouvé sur le corps de la jeune Roumaine. Alexandre Verdure reconnaît alors une relation sexuelle avec Mihaela Miloiu, mais il jure qu'il n'a rien à voir avec ce décès. Son avocate, maître Emmanuel Huot, assure que son client dira pourquoi on retrouve son ADN sur les lieux du crime. Il n'a pas tué, mais admet avoir transporté le corps sous la menace de deux hommes. Le jeudi 9 novembre, Alexandre Verdure est mis en examen pour meurtre et écroué à la maison d'arrêt de Besançon. Maître Sylvain Cormier, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, on va voir un peu plus tard dans le détail les explications que va fournir votre client Alexandre Verdure, et notamment à la barre de la cour d'assises, dans le box des accusés. On le verra dans le chapitre suivant. En mots déjà, qui est Alexandre Verdure? J'ai dressé très très sommairement son portrait.
Oui, on pourrait le compléter par l'idée que c'est quelqu'un qui est passionné, vraiment, c'est un grand moteur dans sa vie, par l'idée de défendre les autres. Il s'inscrit comme pompier, il a fait toute sa jeunesse comme pompier volontaire, ensuite une fois qu'il devient gendarme réserviste, et puis une fois qu'il n'est plus gendarme réserviste, il travaille dans la sécurité. C'est vraiment quelqu'un qui est très attaché à rendre service assez proche.
Ah, je l'ai dit, casier judiciaire vierge, il n'est pas connu pour violence. Il est pas, on n'a pas de traces de lui. C'est pas quelqu'un qui fait du grabuge.
Non, mais on a évidemment interrogé, on va dire, ses anciens coéquipiers, ses partenaires dans la vie intime, mais aussi ceux qu'il a pu croiser en tant que gendarme, en tant que pompier. Ce qui revient souvent, c'est que c'est quelqu'un d'assez discret, d'assez effacé, mais qui n'a jamais fait parler de lui en mal.
Ah, c'est ça, il a une compagne, il vit, on l'a dit, à Moutes, hein, qui est une petite ville, qui est d'ailleurs, je crois, la ville la plus froide de France, d'après ce que disent les météorologistes. Marc Eterno, détective privé, et vous avez été engagé par la défense, justement, pour refaire un petit peu l'enquête avant le procès en appel d'Alexandre Verdure, qui arrivera. J'ai envie de vous poser une question simple. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ADN de votre client, si je puis dire, sur ces scènes de crime.
A priori, quand on regarde le dossier, tout accuse Alexandre Verdure. Le problème, c'est qu'il y a des coïncidences troublantes dans ce dossier qui n'ont pas été approfondies. On sait que Mihaela souhaitait quitter Lausanne pour rejoindre sa famille en Roumanie. Et ses souteneurs, les proxénètes, étaient informés de cette volonté-là. Alors effectivement, quand on regarde les prélèvements d'ADN, quand on regarde les témoignages, et surtout l'incohérence et le côté irrationnel des propos tenus par Alexandre Verdure, on peut avoir des doutes.
Tout l'accuse.
Tout semble l'accuser. Et c'est comme ça que naissent les heures judiciaires. C'est-à-dire que c'est le dossier qui conduit à l'erreur judiciaire, parce que peut-être qu'on en fait une analyse un petit peu trop, pas succincte, mais en tout cas au premier degré.
Oui, enfin au premier degré, mais je me mets à la place des enquêteurs. Si je suis moi-même gendarme ou policier, face à un tel dossier, évidemment, les soupçons ils vont directement sur l'intéressé.
Déjà, il faudrait pouvoir déterminer le mobile. Quelles étaient les raisons qui auraient poussé Alexandre Verdure à être si violent avec cette fille, à la défigurer, à la transporter pour cacher le corps? La thèse qu'il met en avant, qui est défendue par Maître Sylvain Cormier et puis Maître Emmanuel Huot, est effectivement peut-être rocambolesque au départ, puisqu'on a le sentiment qu'on l'a forcé à transporter le corps, mais lui a des éléments d'explication qui sont plutôt rationnels.
Oui. Alors, question à Maître Cormier, vous êtes l'un des avocats de Alexandre Verdure. Qu'est-ce qu'il dit dans cette garde à vue au tout début là, d'abord il nie, ensuite il va raconter cette version où il aurait été forcé de d'emporter le corps de cette pauvre femme. Puis question subsidiaire, pourquoi il n'a jamais parlé de cette affaire avant d'être interpellé?
Oui, c'est vraiment la question qu'on lui pose, que le juge d'instruction, puis le président de la cour d'assises, et même les gendarmes, au cours de l'enquête, vont lui poser. Mais enfin, comment avez-vous fait pour garder ça pour vous? Alors il va dire, j'ai eu très peur, donc j'ai essayé de vivre avec ça sans en parler, j'avais peur pour ma famille, j'ai eu l'impression qu'il me suivait jusqu'au près de chez moi. Ce qui est clair, c'est que quand cette affaire, lorsqu'on met le doigt sur Alexandre Verdure, tout l'accuse. Absolument tout l'accuse. Ses propos en garde à vue sont épouvantables. Il est très maladroit. Il se débrouille très mal. Et j'ai envie de dire qu'il brille dans la lumière. On ne voit que lui, en quelque sorte. Et je pense que c'est vraiment le drame de cette affaire.
Oui, mais il faut bien reconnaître, Maître Cormier, que c'est vraiment quasiment incompréhensible ce qu'il raconte.
C'est quasiment incompréhensible. Il y a de l'ADN de partout. On a envie de dire qu'est-ce qui manque. Alors la première chose qui manque, c'est l'arme du crime. On la retrouve pas. Et puis on ne lui connaît personne dans son entourage. Ne lui connaît d'arme équivalente. Il a un couteau suisse que son père lui a offert. Voilà, les témoins en parlent, mais ça correspond pas du tout à ces empreintes très spécifiques et qui sont toutes identiques. 26 plaies identiques, dira le médecin. Légiste, parfaitement identique, c'est quand même une signature très, très, très nette.
Écroué, Alexandre Verdure va continuer à répéter qu'il n'a pas tué la jeune Roumaine. La justice ne le croit pas. Il est renvoyé aux assises où il va alors détailler sa propre version des faits. Celle qui, clame-t-il, fait de lui un innocent. Ce mercredi 9 décembre 2020, Alexandre Verdure, 33 ans, prend place dans le box des accusés de la cour d'assises du Doubs à Besançon. Procès prévu pour durer 3 jours. L'accusé affiche un physique plutôt athlétique dans une veste de cuir noir, un teint pâle, ses cheveux bruns coiffés en arrière. Dès l'ouverture des débats, Alexandre Verdure affirme n'avoir pas tué Mihaela Miloiu. L'un de ses avocats, Maître Cormier, s'étonne que lors de son hospitalisation, Verdure n'ait pas présenté de lésions aux mains alors qu'il aurait tabassé la jeune femme. Le major de gendarmerie explique à la barre que rien ne dit que celle-ci a eu le crâne fracassé à coups de poing. On pouvait lui fracasser la tête par terre en obtenant le même résultat. Hypothèse plausible, selon le légiste. Au cours de son audition, Alexandre Verdure livre le scénario suivant. Il explique s'être retrouvé le 29 novembre 2016 au soir après son travail au rond-point de la Maladière à la sortie de Lausanne. Il a, à cet endroit-là, surpris une dispute entre une femme prise à partie par un homme. Verdure s'est approché pour s'interposer. La femme est montée dans sa voiture. Il lui a demandé si elle souhaitait se rendre à la police. Elle a refusé, expliqué qu'elle connaissait son agresseur et qu'elle était prostituée. Verdure roule et accepte finalement une passe, une prestation tarifée que lui propose la jeune femme, avec une ristourne, précise-t-il, de 60 euros. Le couple s'arrête dans un chemin discret près de Sulins. Une BMW serait alors arrivée avec ses phares allumés. Deux hommes en seraient sortis, l'un d'eux aurait brandi une arme, obligeant Alexandre Verdure à se mettre à genoux. L'autre se serait isolé avec la prostituée. Après leur départ, Verdure aurait trouvé le corps sans vie de Miraela sur le dos, lacéré de coups de couteau. Il se serait alors affolé, aurait chargé le corps dans le coffre pour filer jusqu'à la gendarmerie de Moutes, en France. Puis aurait renoncé, en s'apercevant que les deux hommes le suivaient en voiture. Il les aurait semés et se serait débarrassé du cadavre de la malheureuse dans la forêt du Franois. Maître Sylvain Cormier, vous êtes l'avocat d'Alexandre Verdure. Et là, il faut que vous éclairiez un petit peu notre lanterne, parce que j'ai un petit peu de mal à suivre. Et c'est une question qui a été posée à l'audience aussi. Pourquoi Alexandre Verdure raconte-t-il cette nouvelle version? Il n'en avait pas parlé auparavant de ce rond-point, avec autant de détails de cette BMW.
Effectivement, ces détails, il va les donner tard, trop tard, lui disent les enquêteurs et le juge d'instruction. Mais il y a des choses dans ce qu'il dit qui vont s'avérer vraies et qu'il ne pouvait pas savoir. D'abord, il parle de deux agresseurs et elle a deux souteneurs qu'on va identifier, qu'on identifie par les écoutes périphériques. Ça, il ne pouvait pas le deviner, il n'avait évidemment accès à rien du tout et ce qu'il dit correspond à la vérité. Deuxièmement, lorsqu'il rentre chez lui, son épouse qui va douter de lui, qui va pas du tout le protéger, va décrire un homme qui rentre dans un état absolument normal. Il y a pas de sang sur lui, il y a pas de sang sur ses chaussures, il a juste cette entaille sur le doigt. Et je rejoins ce que vous a dit Marc tout à l'heure, ça ne correspond pas au stigmate qu'aurait dû avoir quelqu'un qui se fait prêter sur cette scène de crime.
On terrible. Est d'accord, maître, mais il dit j'ai eu un accident, enfin j'ai un chevreuil, etc.
Voilà, il ment sur cette histoire de chevreuil, mais je pense que s'il avait commis ce crime-là, il serait, soyons clairs.
Ouais, vous savez ce que c'est, on ment un peu, on ment beaucoup.
C'est ce que disent les gendarmes, vous avez menti là, vous avez menti sur le reste. Et je pense que c'est allé un petit peu vite en besogne, parce que on se rend compte en étudiant à fond le dossier, sur une partie tout à fait négligée, très vite les gendarmes délaissent la piste des proxénètes. Alors pour plusieurs raisons, ils ne bandent pas sur les lieux du crime, hein. Et deux, dans leurs discussions, lorsqu'ils sont sur écoute, ils s'intéressent à la disparition de Miraela. Elle est où Miraela? C'est quand même bizarre, etc. Je trouve que c'est un petit peu léger, d'autant qu'elle voulait fuguer ce soir-là. Elle l'a annoncé à sa mère.
Ça, c'est une certitude que vous avez
établie. C'est une certitude qui est acquise par le dossier. La mère vient l'expliquer. Qu'il y a un de ses souteneurs qui s'en va dans l'après-midi un peu plus tôt et qui file en Roumanie, le lieu où elle doit arriver. Moi, je pense que c'est pour l'y attendre. Et que le deuxième fait montre d'une gentillesse. Alors, exceptionnel, en lui disant « Mais rentre, je rentre plus tôt que prévu, tu as assez travaillé, je vais te préparer un repas chaud, etc. » Ce qui dénote absolument avec la manière dont il traitait ces pauvres jeunes femmes, et ça on connaît leur traitement parce que tout est sur écoute.
Alors question pour Marc Eterno, détective privé, c'est vous qui reprenez cette enquête, ou plutôt cette contre-enquête, on peut l'appeler comme ça. Question là aussi très simple, pourquoi des proxénètes auraient-ils tué une de leurs filles, qui encore une fois leur rapportait beaucoup d'argent, pourquoi tuer la poule aux œufs d'or finalement?
Alors nous, on sait que ces personnes-là, de tout temps, ont donné l'exemple aux autres filles par la violence. Elles voulaient partir, il y avait d'autres filles qui étaient sur le terrain et qui étaient dans différents endroits en Suisse, et leur but pouvait être de donner l'exemple à ces jeunes femmes en leur montrant que si elles ne rentraient pas dans le rang, si elles souhaitaient soit s'extraire de la prostitution et regagner leur pays, soit si elles ne gagnaient pas suffisamment d'argent, elles seraient battues, elles seraient violentées. C'était leur mode de fonctionnement, ça a été établi. Là, en l'occurrence, Peut-être sont-ils allés trop loin, c'est-à-dire qu'ils l'ont violenté jusqu'à la tuer. Peut-être qu'elle a tenu des propos qui pouvaient les inquiéter, c'est-à-dire « je rentre en Roumanie et je dénonce tout ce que vous faites ». On sait que ce sont des gens qui sont capables aussi de s'en prendre à la famille des prostituées, à leurs enfants, ça a été déterminé comme tel. Il y a une presse locale qui fait état de ces choses-là, en Roumanie. Donc, l'ultra-violence jusqu'à l'homicide est tout à fait...
Donc, ce que vous nous dites, Marc Eterno, c'est que finalement, cette fille serait allée trop loin, elle les aurait mis presque au défi en voulant rentrer en Roumanie, et que ça serait, à partir de là, très mal passé.
C'est une sentence.
Pour elle, avec cette correction qui aurait mal tourné. Moi, je me pose une question quand même, Maître Sylvain Cormier. Pourquoi aller battre à mort une pauvre fille devant un client? J'ai envie de dire, ça ne se fait pas. Pour les proxénètes, ils ont toute envie de rester discrets. Pourquoi faire ça devant un client?
Oui, on peut se poser plein de questions, notamment déjà, simplement, pourquoi la tuer? Alors, peut-être que c'était un exemple, peut-être que ça a complètement dérapé. L'un des surnoms des proxénètes, c'est le fou. Donc, vous voyez, on les connaît peu, on a peu investigué, c'est ça le problème. Si on a dû avoir recours à Marc Eterno, c'est parce qu'on a besoin d'étayer cette piste
des proxénètes.
Étant donné que ce pan de l'instruction est délaissé, il faut que nous cherchions et que nous trouvions des éléments objectifs et concrets.
Encore une question très pratique et très technique. Pourquoi est-ce que votre client se débarrasse-t-il des habits de la victime? On le retrouve totalement déshabillé. Il va dire qu'il les a jetés et qu'il a même jeté l'arme du crime aussi, en passant.
Alors, oui, il va dire ça, il va dire... Alors, l'arme du crime, non, c'est son propre couteau qui va évoquer, mais qui ne correspond pas à l'arme du crime. Il va dire effectivement qu'il l'a jeté. Les habits, effectivement, ça pas de... On ne comprend pas très bien. C'est pas une demande, en tout cas, formulée par les proxénètes tel qu'il l'explique. Ça fait partie, effectivement...
Des mystères.
Oui, d'un des mystères de son attitude. Alors, lui va expliquer que c'était difficile, il y avait les vêtements s'accrochaient. On n'est pas forcément convaincu par cette explication. Il faut aussi prendre en compte la dimension de la panique. C'est une scène d'une violence extrême. Il se sentira suivi dans la foulée.
Suivi avec un cadavre dans le coffre.
Oui, oui. Hein,
alors qu'il aurait pu aussi aller voir la police suisse, pourquoi pas.
Hein, ou française. Et je pense que les choses auraient peut-être tourné différemment pour lui.
Après 3 jours de débat, la cour d'assises du Doubs déclare coupable Alexandre Verdure du meurtre de Mihaela Miloiu. Il est condamné à 20 ans de réclusion. L'accusé a accueilli le verdict sans réagir, en gardant les yeux vers le sol. Alexandre Verdure espère pouvoir faire la démonstration de son innocence lors du procès en appel prévu pour septembre 2021. Lors de sa comparution en cour d'assises en décembre 2020, il n'avait pas convaincu les jurés. Ses explications, parfois dignes d'un film ou d'une série télé, avaient été jugées trop tardives ou trop fantaisistes pour pouvoir être retenues. Pourquoi une telle fuite avec dans le coffre de sa voiture la prostituée s'il ne l'avait pas tuée? Pourquoi ne s'est-il jamais confié sur ce crime qu'il attribue à 2 hommes? Au-delà de ces questions simples, les experts psychiatres n'avaient pas ménagé l'accusé. Ils avaient dressé de lui un portrait préoccupant, un psychopathique, et conclu au manque d'empathie et à la dangerosité extrême de l'intéressé. Les avocats d'Alexandre Verdure estiment pour leur part que l'enquête n'a pas été conduite avec une réelle assiduité. Les gendarmes se seraient focalisés sur la personnalité et les déclarations de Verdure en laissant de côté la piste des proxénètes roumains. Une piste balayée extrêmement rapidement, un seul proxénète a été entendu en Roumanie, indique l'un des avocats du condamné, Maître Cormier. Sur les écoutes captées par la police suisse, les souteneurs de Mihaela semblent se désintéresser de son sort, alors qu'ils sont d'ordinaire prompts à mettre tout en œuvre pour retrouver la moindre fille disparue. La piste du réseau de proxénétisme va donc être creusée. Les avocats ont engagé pour cela un détective privé de Chalon-sur-Saône, Marc Eterno, à se priver, avec les avocats, de déterminer si d'autres personnages pourraient être impliqués dans ce crime. Maître Sylvain Cormier, avocat d'Alexandre Verdure, effectivement, on ne l'a pas cru à ce premier procès. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour que renverser la vapeur au deuxième procès qui aura lieu en septembre?
Moi, je ne vois qu'une solution, parce que vous l'avez très bien résumé, la piste des proxénètes a été délaissée très vite, même s'il y a des raisons à cela qu'on peut comprendre. En attendant, cette piste a été délaissée, donc elle n'est pas nourrie. Mais sachez que la maman de Mikhaïla, elle pensait que c'était les souteneurs. Et si elle le pensait, c'est que c'est elle qui a été dans la confidence. Sa fille l'a appelée pour lui dire « Maman, je pars ». Et c'est le soir de sa fugue qu'elle est morte.
Ces dépositions existent, elles sont
dans le dossier ? Oui, bien sûr. Elle a été entendue par la police roumaine. Et c'est à cette occasion que je me suis dit, en découvrant cet aspect du dossier, qu'il y a une concomitance absolument ahurissante. Je ne crois pas au hasard.
Et Marc Eterno, c'est vous qui êtes chargé effectivement de mener cette contre-enquête. Comment vous travaillez là-dessus sur ce réseau de proxénètes.
À la demande de la défense et avec Roger Marc Moreau, le criminaliste qui intervient avec moi sur ce dossier, on va nourrir cette thèse du doute concernant l'implication du réseau de proxénètes dans ce dossier. On va se rapprocher de la famille de la victime, on va se rapprocher des personnes qui travaillaient avec elle à Lausanne ou des connaissances roumaines, pour avoir quelques années plus tard des éléments concernant cette ultra-violence présente dans ce domaine précis qu'est la prostitution romaine. De manière à nourrir l'hypothèse de la vengeance, de l'exemple, peut-être qu'il y a dérapé. Ce qu'il faut dire aussi, peut-être qu'ils sont allés jusqu'au bout de leur geste en tuant Mikhaïla, parce qu'elle avait la possibilité de s'échapper avec Verdure. C'est-à-dire que lui pouvait la prendre dans sa voiture, si elle n'était pas tuée, traverser la frontière et aller auprès des services de police français. En la tuant, déjà, il n'y avait plus de témoignages possibles dans ce sens-là. Et en pratiquant une sorte de pression sur Verdure, en lui disant « si tu nous dénonces, on s'en prendra à ta famille », il noyautait toute possibilité de délation à leur sujet.
Encore une question quand même, Marc Eterno. Il y a beaucoup d'écoutes, hein. Il y a 4000, je crois, écoutes des proxénètes qui parlent soit avec les filles, soit entre proxénètes, etc. Il n'y a pas une écoute où ils disent on lui a réglé son compte, ou bien on a bien fait, ou bien est-ce que le corps est bien à l'abri, je ne sais pas.
Alors, ce sont de vrais criminels, c'est-à-dire que ce sont des gens qui savent que potentiellement ils peuvent faire l'objet d'écoute. Alors, la nature de leur travail était connue des services. Ils savaient très bien qu'ils étaient dans le viseur de différentes justices européennes et suisses. Donc ils ne peuvent pas, par téléphone, parler d'un quelconque homicide. Ce sont aussi des manipulateurs. Ils savent très bien que les téléphones peuvent être bornés, géolocalisés. Tout ça dessert Verdure, qui, lui, a utilisé son téléphone, n'a pas coupé immédiatement, ne prenant pas conscience
lui,
de tout ça.
Il borne partout, lui. Hein.
Voilà.
Donc il n'y a pas de souci avec ça. Hein.
Donc, eux, effectivement, sont de véritables professionnels, de véritables criminels. Donc ils savent très bien manipuler tout ça pour faire en sorte qu'il ne soit pas immédiatement montré du doigt.
Maître Sylvain Cormier, avocat d'Alexandre Verdure, il est dans quel état d'esprit aujourd'hui votre client ? Après avoir changé beaucoup de versions.
Oui, absolument. Il a changé beaucoup de versions, mais il y a des explications psychologiques à cela. D'ailleurs, une grande fragilité qui a été décelée. Mais il est combatif. Et si nous avons fait appel à Roger Marc Moreau et Marc Eterno, c'est que nous espérons... Moi, le raisonnement est simple. Ce dérapage ne peut pas être le premier. Si c'est eux, ils l'ont déjà fait. Il y a d'autres victimes qu'on ne connaît sans doute pas et qui sont en Roumanie. Et c'est vraiment une des missions sur lesquelles on compte beaucoup. On a toute confiance en eux. Et je pense qu'on aura la possibilité de... C'est ça qu'on cherche, en tout cas, des précédents.
Et on parlait justement du témoignage de la maman, de cette jeune femme qui dit, qui selon elle, c'est bien le réseau qui l'aurait, finalement, lui aurait donné la mort. Vous avez remonté d'autres témoignages, Marc Eterno ?
On a plusieurs pistes pour l'instant qu'on ne peut pas vraiment révéler, parce qu'il ne faudrait pas que les personnes qu'on souhaite entendre ne s'échappent et surtout qu'elles subissent des pressions pour ne pas parler. Donc pour l'instant, effectivement.
Mais en tout cas, avec Roger Marc Moreau, qu'on salue d'ailleurs ce soir, vous avez de la matière, si je puis dire. Il y a des pistes qui se dessinent.
Il y a effectivement de la matière pour étayer la thèse de l'implication de ce réseau proxénète. Oui.
Encore un mot, et c'est le dernier mot, Maître Sylvain Cormier, on arrive au bout de cette émission. Vous avez l'espoir de renverser la vapeur, comme je vous disais tout à l'heure?
En tout cas, on va se donner les moyens d'avoir le maximum d'informations et d'éléments pour la défense d'Alexandre Verdure.
Merci beaucoup Maître Sylvain Cormier et Marc Eterno d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire de l'inconnu du Franois, enquête spectaculaire, tout comme les déclarations de l'accusé, qui tentera de se faire entendre lors de son procès en appel. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.